Nouveau numéro de Wagon Livre ce soir, nouvel invité sur Radion. Merci une fois de plus de nous accueillir chez vous. Nous sommes ensemble jusqu'à 22h. Une heure de passion, de culture et d'échange avec un invité qui signe aux éditions CPE un ouvrage qui a pour titre « Au bon temps des paysans en Bourgogne » et qui passe en revue au gré des saisons les multiples facettes de la vie des paysans de la fin du 19e siècle aux années 50. Alain Robert, bonsoir.
Bonsoir.
Merci à vous d'être devant le micro de Radion. Comment vous présenter? Je me permets de glisser quelques éléments à nos auditrices et auditeurs. Vous êtes natif de Dijon, vous vivez dans Lyon, et après des études de lettres, vous êtes parti sur le chemin de la formation professionnelle qui vous a occupé un certain temps. Et très prochainement, vous allez reprendre une brocante installée à Joigny. Je ne serais pas complet si je ne parlais pas de l'affection, peut-être même de la passion que vous avez pour le musée rural des arts populaires de Ladu, ou Laduz, enfin il semblerait qu'on dise Ladu, qu'on ne prononce pas le Z final. Musée rural des arts populaires dont vous avez un temps été président et actuellement vous en êtes un des guides animateurs. À ce sujet, nous enregistrons cette émission ici à Ladu, au musée des arts populaires, musée créé par Raymond et Jacqueline Imbert. Et vous vous passionnez également pour la généalogie. Alors cet ouvrage, dont il va être largement question ce soir, et dont je répète le titre, « Au bon temps des paysans en Bourgogne », n'est pas tout à fait votre premier livre, puisque vous avez déjà livré un grand nombre d'articles pour l'Almanach Bourguignon, qui est un ouvrage collectif, toujours aux éditions CPE, et vous avez fait paraître cette année un ouvrage intitulé « Patois bourguignon », mais qui, je le mentionne, mais ce n'est pas lui qui nous occupera ce soir. Et un troisième ouvrage est en préparation pour début 2013. Il s'agira d'un recueil de contes traditionnels. Alors, « Au bon temps des paysans en Bourgogne » est un ouvrage documenté, puisqu'il fait une part belle aux illustrations, aux chansons, aux contes et légendes des quatre départements de notre belle Bourgogne. On y notera aussi des recettes traditionnelles. Ce qui est formidable aussi, c'est le parti pris de ce livre, à savoir le parti pris de la vulgarisation, sans volonté de passéisme. Et peut-être vais-je vous demander, Alain Robert, dans un premier temps, de commenter le titre. Alors, c'est vrai que votre livre s'inscrit dans une série chez votre éditeur, mais « Au bon temps des paysans en Bourgogne ». Pourquoi ce bon temps? Nostalgie? Regret?
Alors effectivement, la plupart du temps, lorsqu'on se tourne vers le passé, on a plutôt une image positive des événements. Alors c'est une collection, comme vous l'avez précisé, qui s'appelle « Au bon temps des paysans ». Moi, cette attitude de toujours voir le passé positivement, je m'en méfie beaucoup. Mais je sais que c'est quand même instinctivement pour les lecteurs le souvenir de l'enfance, le passé. Comme on dit, hein, c'est toujours mieux avant. C'était mieux avant. Avant, on savait vivre. Avant, on se contentait de peu, etc., etc. Et c'est vrai que je n'aime pas trop céder à cette facilité. Je pense qu'il y a une part de vrai, parce que dans le passé, les gens aussi ont été heureux. Mais dans ma démarche, je prends un petit peu le contre-pied du titre aussi, parce que dans ma démarche, je veux aussi montrer que la vie des paysans, elle est toujours dure. Mais avant, donc comme vous l'avez dit, avant 1950, les conditions de vie étaient très rudes. Et moi, personnellement, je mets au défi quiconque de vraiment vivre ce qu'ont vécu nos grands-parents, arrière-grands-parents, ça va dépendre de à quelle génération on appartient, de vivre vraiment dans les conditions réelles dans lesquelles les paysans ont vécu. Et j'espère que les lecteurs vont pouvoir ressentir à travers ce livre la sympathie que j'ai envers ce monde paysan qui correspond à la génération, enfin personnellement à la génération de mon grand-père, que je n'ai jamais connu.
Oui, puisque, je me permets juste voilà. de dire qu'il y a une dédicace qui est émouvante, puisque ce livre, vous le dédiez à votre grand-père, vous parlez de ce grand-père renard que vous n'avez pas connu, qui est mort écrasé sous son attelage. Et vous nous ramenez aussi à nos propres origines, en nous disant que nous avons finalement tous la mémoire un peu courte, parce que nous sommes tous des enfants de paysans.
Oui, effectivement, le thème de la mémoire, c'est un des thèmes qui est important. Alors, nous avons tous la mémoire courte. Oui, parce que c'est la vie que nous menons qui nous y incite, malheureusement. Et effectivement, dans ce livre, je veux qu'on se remémore les gens qui ont disparu et parfois aussi les traditions, les modes de pensée qui sont liés au mode de vie rural. Alors, nous sommes tous enfants de paysans. Alors, on ne va pas remonter trop loin, mais en nuançant quand même un peu, la plupart d'entre nous ont effectivement des ancêtres qui vivaient dans la ruralité. Cependant, attention, Eugène Weber, qui a écrit un livre qui s'appelle « La fin des terroirs », marque cette fin vers 1880, de manière symbolique. Donc, nos grands-parents ne sont pas tous nés en 1880. Donc, on va nuancer, si vous voulez. Mais oui, nous avons la France, au début du 19e siècle, est à 80% rurale. Il est clair qu'une bonne partie de notre identité nationale et puis régionale, puisque la Bourgogne est encore une région qui tire beaucoup de ses ressources. Je ne vais pas parler du vin, mais d'autres ressources de l'agriculture.
Les céréales, voilà. Par exemple.
Les céréales, on a beaucoup de plaines céréalières, dans l'Yonne notamment.
Ce qui est intéressant, lorsque l'on va sur le site internet des éditions CPE, il y a ce rappel, il est question même de la race des paysans, la vraie, l'authentique, qui est en voie de disparition. Et un peu plus loin, votre éditeur parle du paysan en disant qu'il n'est pas un révolté, peut-être pas un résigné non plus, mais que sa longue communion avec les plantes et les animaux a fait qu'il en a tiré des leçons de la vie. Et ce qu'il affirme également, c'est que naître et mourir sont pour lui aussi naturels que manger ou dormir.
Alors oui, la vie du paysan, elle est totalement intégrée au cycle de la nature. Et j'allais dire, même le paysan y connaît, d'aujourd'hui, qui est dans la cabine de son tracteur, qui maintenant a le GPS, l'autoradio, lecteur de CD, MP3, etc.
Ou la climatisation.
Et la climatisation, surtout c'est important dans les moissonneuses pour l'été. Son activité est de toute façon dépendante des aléas climatiques et du cycle des saisons. À la lecture du livre, dans la première partie du livre, je me suis basé sur un almanach, donc le Bourguignon Salé, qui était édité à Auxerre. J'ai fait ce choix parce que je suis connais, et puis parce que cet almanach me permettait vraiment d'entrer dans l'histoire du département aussi.
Et puis de respecter tout à fait le
rythme des saisons, puisque un des objectifs de l'almanach, c'est de rappeler au lecteur à quelle période on est censé effectuer telle tâche, à la cave, au champ, etc., etc. Voilà. Et donc, c'est vraiment, cette activité, la paysannerie, elle est vraiment inscrite dans le cycle, même encore aujourd'hui. Ça, je tiens vraiment, j'ai tenu absolument dans le livre à souligner cet aspect. Les cycles, les années s'enchaînent. Ce sont des cycles, en fait, qui se suivent, avec des variations à chaque fois, évidemment, mais vraiment une activité cyclique. Loin de cette représentation linéaire du progrès qu'on a maintenant tous en tête.
Et c'est aussi, à mon avis, une des clés et une des forces du livre, dans sa clarté, dans son souci de rigueur, c'est que vous montrez cette vie de labeur du paysan, vie difficile, liée à des conditions et de vie et de travail qui sont parfois pénibles, des hommes et des femmes, nous en parlerons, qui font preuve bien souvent d'un grand courage, et cette vie de labeur, elle est rythmée par les saisons, et vraiment, votre livre nous permet de ne pas nous y perdre en suivant ce parti pris des saisons. Il fallait y penser, parce que vous auriez pu opérer un classement peut-être de ceux qui travaillent la terre, de ceux qui travaillaient peut-être différentes matières premières. Là, en suivant ce rythme, cela donne au livre un rythme, et je dirais que ça en rend la lecture d'autant plus simple est très passionnante aussi, tout en nous mettant dans ce rythme. On s'y glisse aussi et on se dit, mon Dieu, finalement, comme nous vivons de manière confortable aujourd'hui.
Alors, nous vivons de manière plutôt confortable, mais nous sommes d'une certaine manière toujours soumis au cycle des saisons. Je vais prendre un exemple vraiment trivial, le changement de l'heure. Avec, dans l'année, on se rend compte que la nuit tombe plus rapidement. Alors évidemment, aujourd'hui, tout ça n'a pas beaucoup d'incidence pour nous. Pour les paysans à l'époque, il faut imaginer que l'été, avec la durée du jour qui est très importante, les durées des journées de labeur étaient d'autant plus longues. L'hiver, avec la lumière qui disparaît, j'allais dire, le travail aussi, quelque part, le travail à l'extérieur disparaît. Donc on rentre aux maisons, et puis, c'est le cycle d'éveillé, le cycle est aussi religieux, puisque bien entendu, les fêtes religieuses vont marquer le calendrier. C'est vraiment tout un univers qui, maintenant, n'a pas totalement disparu, mais on va dire est vraiment atténué par la société de consommation.
Nous reprendrons notre passionnante conversation dans un instant. Je vous propose, Alain Robert, d'écouter un titre que vous avez choisi. D'ailleurs, c'est vous qui avez retenu toutes les pauses qui vont marquer notre entretien et je vous en remercie. On écoute la balade des gens qui sont nés quelque part. C'est Georges Brassens. Excellente soirée sur Radion. Wagon Livre revient dans quelques minutes pour retourner au bon temps des paysans en Bourgogne.
C'est vrai qu'ils sont plaisants, tous ces petits villages, tous ces bourgs, ces hameaux, ces lieux-dits, ces cités, avec leurs châteaux forts, leurs églises, leurs plages, ils n'ont qu'un seul point faible, et c'est d'être habité par des gens qui regardent le reste avec mépris du haut de leur rempart. La race des chauvins, des porteurs de cocardes, les imbéciles heureux qui sont nés quelque part, les imbéciles heureux qui sont nés quelque part. Maudits soient ces enfants de leur mère patrie, empalés une fois pour toutes sur leur clocher qui vous montre leur tour, leur musée, leur mairie. Vous font voir du pays natal jusqu'à Loucher, qu'ils sortent de Paris ou de Rome ou de Sète ou du diable Vauvert ou bien de Zanzibar ou même de mon cul, ils s'en flattent mazette, les imbéciles heureux qui sont nés quelque part, les imbéciles heureux qui sont nés quelque part. Le sable dans lequel douillette leurs autruches enfouissent la tête, on trouve pas plus fin quant à l'air qu'ils emploient pour gonfler leurs baudruches, leurs bulles de savon, c'est du souffle divin. Et petit à petit, les voilà qui se montent le cou jusqu'à penser que le crottin fait part. Leurs chevaux, même en bois, rend jaloux tout le monde, les imbéciles heureux qui sont nés quelque part, les imbéciles heureux qui sont nés quelque part. C'est pas un lieu commun, celui de leur naissance, ils plaignent de tout cœur, les pauvres malchanceux, les petits maladroits qui n'eurent pas la présence d'esprit de voir le jour chez eux, quand sonne le tocsin sur leur bonheur précaire contre les étrangers tous plus ou moins barbares. Ils sortent de leur trou pour mourir à la guerre, les imbéciles heureux qui sont nés quelque part, les imbéciles heureux qui sont nés quelque part. Mon Dieu, qu'il ferait bon sur la terre des hommes si l'on y rencontrait cette race incongrue, cette race importune et qui partout foisonne, la race des gens du terroir, des gens du cru. Que la vie se révèle en toutes circonstances si vous n'aviez tiré du néant ces jobards. preuve peut-être bien de votre inexistence. Les imbéciles heureux qui sont nés quelque part. Les imbéciles heureux qui sont nés quelque part.
Redécouvrir une part de notre patrimoine régional, c'est ce que nous avons le plaisir de faire ce soir sur votre radio locale. Et notre guide s'appelle Alain Robert. Il est notre invité pour son ouvrage « Au bon temps des paysans en Bourgogne », une belle idée cadeau pour les fêtes de fin d'année qui approchent. Avant Georges Brassens, Alain Robert, on parlait justement de la difficulté de ces conditions de vie. Les paysans suivaient le rythme des saisons par la force des choses. Ils sont peu mobiles, ils ne bougent pas beaucoup, ils ne quittent pas vraiment leur terre. Il y a ce cas tout à fait exceptionnel des galvachés. Est-ce que je peux vous demander de rappeler à celles et ceux qui nous font la gentillesse de nous suivre, et notamment peut-être la jeune génération, ce que sont des galvachés?
Alors les galvachés, pour expliquer les choses simplement, étaient des paysans, des meneurs de bœufs, c'est-à-dire, pour vraiment prendre une métaphore qui vaut ce qu'elle vaut, l'équivalent de nos routiers d'aujourd'hui. Avec leurs bœufs, qu'ils conduisaient par les routes de Bourgogne et de France, ils charroyaient, je ne sais pas comment employer, enfin quel mot employer, mais ils transportaient tout simplement des marchandises. Alors évidemment, le galvaché devait quitter son Morvan qui ne lui permettait pas de vivre correctement et toute l'année. Et souvent, avec leur attelage, ils étaient assez renommés pour être de bons meneurs de bœufs. Ils étaient payés pour acheminer la marchandise d'un endroit à un autre. Alors évidemment, on imagine que beaucoup de marchandises étaient acheminées en direction de Paris. Mais ils pouvaient descendre aussi dans le sud de la Bourgogne et assurer des transports dans tout le Morvan.
Alors on est bien loin, effectivement, de cette mécanisation de l'agriculture qui va bouleverser complètement le travail des paysans. Alors la mécanisation de l'agriculture, il faut la situer plutôt dans les années 1920-1930.
Alors la mécanisation, c'est un phénomène qui va arriver très tôt, finalement, mais qui va prendre du temps pour vraiment se répandre dans toute la paysannerie. Si on peut considérer que les premières machines agricoles apparaissent au milieu du 19e siècle, principalement, la mécanisation va vraiment, vraiment s'accélérer à partir de la Première Guerre mondiale et surtout avec la Révolution verte qu'on va avoir dans la deuxième moitié du 20e siècle. Bien entendu, les habitudes auront déjà changé. Il est clair qu'on a besoin de beaucoup de main-d'œuvre. Les femmes travaillent beaucoup, parce qu'on dit au beau temps des paysans, on aurait pu dire aussi au bon temps des paysannes aussi. Les femmes aident beaucoup, c'est toujours un peu le cas évidemment, mais aidaient beaucoup les hommes l'été aux travaux au champ. Et la mécanisation a permis de supprimer beaucoup de main-d'œuvre. Alors une main d'œuvre pour un travail très pénible et de malheureusement beaucoup d'emplois de journaliers, puisque beaucoup de nos ancêtres, si on peut dire ça comme ça, étaient aussi des journaliers, c'est-à-dire qu'ils louaient leurs bras à la journée pour n'importe quelle tâche agricole. Donc on avait beaucoup besoin d'eux lors des moissons, par exemple, et la mécanisation a vraiment changé la donne. Lorsque les premières faneuses, les moissonneuses lieuses sont apparues, ce sont des dizaines, des quinzaines de personnes qui n'avaient plus finalement de travail, remplacées par une machine conduite par une personne et puis deux chevaux, par exemple, qui étaient guidés par une deuxième personne, par exemple, voilà.
Alors il y a par exemple les premiers tracteurs de marque Vierzon,
voilà,
marque
française à l'époque, bien entendu.
Les faucheuses McCormick.
Voilà, pas une marque française.
Là, effectivement, on n'est plus dans le...
Oui, tout ça doit rappeler les souvenirs aux plus anciens agriculteurs, s'ils nous écoutent. Ils doivent sans doute se rappeler de l'arrivée de ces machines... flambantes dans la cour de la ferme. Ces machines, on les retrouve encore, je l'explique dans le livre, ces machines qu'on voit dans les gravures ou dans les cartes postales anciennes, maintenant, quelques-unes restent dans un coin de friche dans les champs,
rouillent,
en train de rouiller, quand elles sont pas débarrassées pour partir à la récupération de ferraille, hein, voilà. Et ça fait partie des choses qu'on peut encore voir dans le paysage bourguignon.
Et puis il y a aussi un aspect extrêmement triste, c'est que les animaux, et je pense notamment aux chevaux de trait, sont remplacés par la machine, et ces animaux finissent parfois à l'abattoir. Enfin, on s'en débarrasse parce qu'il faut les nourrir et finalement ce n'est pas rentable.
Alors ce n'est pas rentable en temps, ce n'est pas rentable effectivement financièrement parlant, si vous le voulez. Ce qui me paraît moi le plus dommageable, c'est la disparition du lien entre l'animal et le paysan. Il est clair que l'animal, que ce soit les chevaux, même les bœufs pour les Morvandiaux, c'était vraiment le patrimoine, le trésor de la famille, le trésor de la ferme. Lorsqu'un animal était malade ou lorsqu'on devait s'en séparer, c'était pas sans regret. Et vraiment, c'est vraiment ce lien entre... Il y a un passage dans mon livre où je parle de la petite communauté du village, hommes et bêtes. C'est vraiment ça. D'ailleurs, encore aujourd'hui, pour terminer sur ce sujet, sur une note un peu plus contemporaine, les citadins que nous sommes devenus, on voit bien, on est en recherche de ce lien avec les animaux de compagnie. Les lapins, on aime bien, dès qu'on a un peu de place chez soi, dès qu'on a un peu de terrain, on a un cheval. Bon, alors évidemment, ce n'est plus pour tracter un engin agricole, c'est pour la promenade, mais on a des chevaux,
un petit mouton, une chevrette,
un âne, voilà. Ce qui montre bien que quelque part, dès qu'on a les moyens de vivre à la campagne, on retrouve ce réflexe d'avoir un lien avec les animaux, avec la nature qui nous entoure.
Alors, bien sûr, une pensée pour les animaux, mais une pensée aussi, et là, je vous en remercie, Alain Robert, suite à la visite personnalisée que vous m'avez offerte du musée de la Duse, c'est la disparition d'un certain nombre de métiers qui étaient liés aussi à l'utilisation des animaux pour les travaux des champs, bourrelier, charron, forgeron et maréchal ferrant. Et là, effectivement, c'est tout un artisanat, tout un savoir-faire qui aujourd'hui survit à travers des objets exposés dans des musées comme celui de la Duse.
Alors certains survivent effectivement à travers des collections privées ou dans les musées ou d'autres. Alors on pourrait prendre l'exemple du bourrelier. Bon, pour les Iconais plus spécialement, on a un bourrelier qui sait encore travailler à l'ancienne, qui a son magasin sur la route de Moneto. Mais le bourrelier, effectivement, travaillant à la campagne, c'est un métier qui a quasiment disparu. Par contre, là où on peut nuancer, c'est pour le maréchal ferrant. Le maréchal ferrant, effectivement, c'est un métier qui a muté. On peut encore en voir parfois dans les manifestations. Moi, je vais citer Grisel Le Bocage et ses journées animalières, où une année, un maréchal ferrant est venu faire une démonstration. Alors évidemment, le maréchal ferrant n'est plus chez lui, dans sa forge, dans sa boutique, avec l'enclume, etc. Maintenant, il est mobile. Il a un grand véhicule tout-terrain, sa forge est devenue portative, et de toute façon, on parlait des animaux à l'instant, dès qu'on a un âne, un cheval, même pour la promenade, il y a des soins à donner. Il faut ferrer les chevaux si on veut faire de la promenade. Donc maintenant, disons que le maréchal ferrant, il vient à domicile. Donc c'est un métier qui existe. Mais évidemment, la plupart des ateliers des artisans ruraux ont fermé, les derniers ont dû fermer leurs portes dans l'Yonne dans les années 60.
Vous écoutez Wagon Livre, un voyage dans l'actualité littéraire, toujours en première classe. Nous sommes ce soir en compagnie d'Alain Robert pour son ouvrage « Au bon temps des paysans en Bourgogne » disponible aux éditions CPE. Et Alain Robert, on écoute « Des générations en famille ». Je vais vous demander de me rappeler le titre, le nom du groupe.
Alors le groupe s'appelle « Mes aïeux ». C'est un groupe canadien qui est assez connu au Québec. Donc il chante en français. Et je trouve cette chanson particulièrement fidèle, je pense, à l'esprit de la génération des 30-40 ans.
Voici donc le groupe Mes Aïeux qui nous interprète Des générations en famille. On se retrouve d'ici quelques minutes avec notre invité Alain Robert.
Ton arrière-arrière-grand-père, il a défriché la terre. Ton arrière-grand-père, il a labouré la terre. Et puis ton grand-père a rentabilisé la terre. Et puis ton père, il l'a vendu pour devenir fonctionnaire.
Et puis toi, mon petit gars, tu sais plus ce que tu vas faire. Dans ton petit 3,5, ben trop cher, frais de ton hiver. Il te vient des envies de devenir propriétaire. Et tu rêves la nuit d'avoir ton petit lopin de terre.
Ton arrière-arrière-grand-mère, elle a eu 14 enfants. Ton arrière-grand-mère en a eu quasiment autant. Et puis ta grand-mère en a eu 3, c'était suffisant. Puis ta mère en voulait pas, toi t'étais un accident.
Et puis toi, ma petite fille, tu changes de partenaire tout le temps. Quand tu fais des conneries, tu t'en sauves en avortant. Mais y'a des matins, tu te réveilles en pleurant. Quand tu rêves la nuit d'une grande table entourée d'enfants. Ton arrière-arrière-grand-père a vécu la grosse misère. Ton arrière-grand-père, il ramassait les scènes noires. Et puis ton grand-père, miracle, est devenu millionnaire. Ton père en a hérité, il l'a tout mis dans ses réels. Et puis toi, petite jeunesse, tu dois ton cul au ministère. Pas moyen d'avoir un prêt dans une institution bancaire. Pour calmer tes envies de hold-up et la caissière, tu lis des livres qui parlent de simplicité volontaire. Des arrière-arrière-grands-parents, ils savaient comment fêter. Des arrière-grands-parents, ça swingait fort dans les veillées. Puis tes grands-parents ont connu l'époque yéyé. Tes parents, c'était les discours, c'est là qu'ils se sont rencontrés. Et puis toi, mon ami, qu'est-ce que tu fais de ta soirée? Éteins donc ta TV, faut pas rester en cabané. Heureusement que dans vie, certaines choses refusent de changer. Enfile tes plus beaux habits, car nous allons ce soir danser.
Les multiples facettes de la vie des paysans bourguignons de la fin du 19e siècle jusqu'au début des années 50, certains d'entre vous, les plus âgés, y retrouveront sans doute des souvenirs, mais aussi leurs racines, et les plus jeunes y feront de multiples découvertes. Nous sommes en compagnie d'Alain Robert, l'auteur aux éditions CPE de « Au bon temps des paysans en Bourgogne », un ouvrage riche et documenté puisqu'il fait une part belle aux illustrations, aux chansons et aux contes et légendes des quatre départements de notre région Bourgogne. Il y a aussi des aspects, j'allais dire, savoureux, avec des recettes traditionnelles qui sont répertoriées. Labourer et semer était, Alain Robert, tout un art. Rien ne se faisait au hasard, on faisait les choses un peu selon un rituel. Tout est très codifié tout de même dans cet univers paysan.
Alors nous parlions tout à l'heure d'un univers cyclique chez les paysans. Et effectivement, l'autre mot-clé, c'est, vous l'avez prononcé, je crois, c'est le rituel. Alors, il faut bien comprendre que la mécanisation de l'agriculture a fait aussi disparaître tous ces rituels qui accompagnaient les gestes, on dirait de nos jours, des gestes de base du paysan. Alors, si on remonte assez loin dans le temps, et on parle, si on évoque les semailles, tout se faisait encore à la main. Alors, dans le livre, il y a un extrait d'Henri Vincenot qui explique bien le travail à la fois pénible, mais le travail aussi de précision, le geste. On a perdu beaucoup de gestes dans beaucoup de domaines, dans l'agriculture comme ailleurs. On a perdu la précision, les rituels qui accompagnent les gestes de professionnels, on va dire ça comme ça maintenant. Et effectivement, ce travail a disparu à cause des machines.
Alors, on ne pourra pas passer en revue tous les aspects agricoles qui sont évoqués dans le livre. Il est question de l'élevage des charolais, des naisseurs, des emboucheurs, des négociants. Il y a un aspect. Alors, bon, vous parlez un petit peu des vignerons. La polée ou le tuchien, on appelle ça le tuchien à Marseille.
Selon les régions, tout à fait.
Ce qui m'intéresse aussi, c'est que vous nous parliez un petit peu de cette cueillette des cerises dans Lyon dès le mois de juin. Et qui a une. Bien sûr, il y avait beaucoup plus de cerisiers qu'il y en a actuellement. Aujourd'hui, il semblerait, d'après les chiffres que vous donnez dans l'ouvrage, il y en a 340 hectares.
Alors, ce n'est pas facile de savoir, effectivement, qui replante, qui arrache les cerisiers actuellement. Historiquement, ce qu'on peut dire, c'est que la culture des fruits dans le sud de l'Auxerrois s'est surtout développée. À cause du phylloxéra qui a tué les vignes partout en France. Et effectivement, ça fait partie du patrimoine local de Lyon. Le bigarreau marmotte, voilà, du nom. Alors, est-ce que c'est une légende? Est-ce que c'est vrai? Ça a tendance à être prouvé historiquement, j'allais dire. Le surnom de cet homme, donc Marmotte, qui aurait été l'inventeur de cette variété du Bigarreau, qu'on trouve maintenant encore en vente, qu'on prend les routes dans le sud de l'Auxerrois, on a ces petites cahutes, là, voilà, où on vend en bord des routes. Ce qui a quelque part aussi dans notre gastronomie, puisqu'on parlait tout à l'heure, notre gastronomie locale, on a toute une tradition, alors appelons ça des clafoutis pour faire quelque chose de simple, mais la cerise a été effectivement incommodée de différentes manières dans les pâtisseries, et puis surtout ces fruits étaient très appréciés jadis. Comme fruits à consommer, ils étaient vendus déjà, j'allais dire, aux Parisiens.
Alors, autre produit cultivé, dans les plaines de la Tille, de la Vingeanne, de la Bèze, de l'Ouche ou de la Saône, c'est le houblon.
Oui, alors, dans le grand public, très peu savent que la Bourgogne fut une grande région productrice de houblon, donc pour la bière. Alors, on se sert dans le houblon d'une petite poudre, une poudre magique presque, qu'on appelle la lupuline. Et ça a été tout un pan de notre industrie bourguignonne, puisqu'on a été placé parmi les premiers producteurs à une époque. Donc ça s'explique surtout à la fin du 19e siècle, avec la perte de l'Alsace-Lorraine, qui était des grandes régions productrices. Et puis, cette industrie, elle s'est éteinte tout doucement. Avec le XXe siècle, avec l'apparition notamment d'autres cultures, puisqu'on a de nouveau cultivé d'autres choses comme le tabac, par exemple. Mais il reste encore, alors là on n'est pas dans Lyon, j'allais dire, mais il reste encore dans une partie du Dijonnais, il reste encore des bâtiments qui marquent le paysage et qui, pour ceux qui sont ouverts à l'histoire de la région, qui nous rappellent cette industrie bien particulière liée donc à la bière. Donc il n'y a pas que le vin en Bourgogne, il y a eu aussi la bière.
Alors je passe peut-être un peu vite sur les poires et les pommes en Pays d'Hôte, à moins que cela réclame peut-être un commentaire particulier.
On peut s'y arrêter quand même, parce que le Pays d'Hôte, c'est Lyon. Donc il faut quand même faire un petit clin d'œil aux producteurs de cidre. Alors simplement une petite anecdote. Pour ceux qui n'auraient jamais goûté le cidre du Pays d'Hôte, sachez c'est vraiment un produit de terroir et on lui associe un goût de, comme on dit, de pierre à feu ou de silex.
Peut-être retrouvez-vous avec émotion une partie de votre identité régionale en écoutant notre invité Alain Robert. Je rappelle que nous sommes avec lui jusqu'à 22h. Il est l'auteur donc d'un ouvrage intitulé « Au bon temps des paysans en Bourgogne », disponible aux éditions CPE, l'éditeur des terroirs. On vous laisse le temps de préparer une petite infusion ou d'aller grignoter un petit quelque chose et nous serons de retour dans une poignée de minutes. On écoute cette fois-ci Francis Cabrel, carte postale, et c'est un choix de notre invité.
allumer les postes de télévision, verrouiller les portes des conversations, oublier les dames et les jeux de cartes, endormir les fermes quand les jeunes partent, briser les lumières des ruelles en fête, refroidir le vin brûlant les assiettes, emporter les mots des serveuses aimables, et disparu les chiens jouant sous les tables, déchirer les nappes des soirées de noces, oublier les fables du sommeil des gosses, arrêter les valses des derniers jupons et les fausses notes des accordéons. C'est un rameau perdu sous les étoiles, avec de vieux rideaux pendus à des fenêtres sales, et sur le vieux buffet, sous la poussière grise, il reste une carte postale, foudronner les pierres des chemins tranquilles, relever les herbes des endroits fragiles, déserter les places des belles foraines, assécher les traces de l'eau des fontaines, oublier les phrases sacrées des grands-pères, aux âtres des grandes cheminées de pierre, envoler les rires des nuits de moisson, allumer les postes de télévision. C'est un amour perdu sous les étoiles, avec de vieux rideaux pendus à des fenêtres sales, et sur le vieux buffet, sous la poussière grise, il reste une carte postale. Envoler les robes des belles promises, les ailes des grillons, les paniers de cerises, oublier les rires des nuits de moisson, et allumer les postes de télévision.
Francis Cabrel à l'instant sur Radion, retour à bord de Wagon Livre, histoire et régionalisme sont au micro sur votre radio locale grâce à notre invité Alain Robert. Je rappelle que l'émission que vous entendez ce soir a été enregistrée au musée de l'Abus. Le livre de notre invité a pour titre « Au bon temps des paysans en Bourgogne », une belle idée cadeau, me semble-t-il, à glisser sous le sapin de Noël. Et justement, Alain Robert, j'aimerais que nous parlions un peu des veillées et de Noé, comme on disait en patois bourguignon, de Noël qui approche finalement à pas feutrés.
Oui, alors, grande période festive que Noël. Sachant là encore que si on remonte dans le temps, dans les milieux paysans, on ne parle pas de Noël. Alors on va avoir des étrennes, ça c'est plutôt avec le début d'année, j'ai une petite pensée émue Pour ma marraine, qui est maintenant femme d'agriculteur à la retraite et qui habite Penge, dans le nord du Dijonais, chez qui, quand j'étais petit, mes parents m'emmenaient pour aller chercher les étrennes. Voilà, on parlait même encore, je suis quand même pas si vieux que ça, encore dans les années 70-80, dans ma famille, on avait le réflexe, c'était les étrennes pour le début de l'année. On n'avait pas de Père Noël. Alors, petite anecdote que nous avons évoquée tout à l'heure, avant le début de l'émission, en 1954, à Dijon, on a brûlé l'effigie du Père Noël, ce qui montre bien que cette fête, après religieuse, commerciale, chacun sait son avis, a eu du mal à faire sa place quand même en Bourgogne. La messe de minuit, par contre, reste, j'allais dire, une institution.
Oui.
Voilà. Le Père Noël, c'est vraiment... il va venir vraiment après la Seconde Guerre mondiale.
Hein. C'est surtout une fête introduite en France aussi par une marque de soda.
Oui, c'est une marque aux couleurs blanches et rouges qu'on retrouve dans l'habit du Père Noël. Bon, cela reste pour le plus grand plaisir des enfants. À Noël, jadis, les enfants avaient, je pense que beaucoup des plus anciens auditeurs de la radio doivent se souvenir qu'ils avaient une orange, quelques petites douceurs, très exceptionnelles, vraiment pour marquer le coup, mais pas vraiment de cadeau.
Alors, puisqu'on est dans les douceurs et dans les odeurs et la gourmandise, peut-être faut-il expliquer aussi que la bûche que nous mangeons était aussi une autre bûche, jadis.
Alors oui, la bûche était une véritable bûche. C'est un peu trivial de dire ça. Effectivement, la tradition, c'est une tradition qui est répandue un peu partout en France, était de choisir pour la nuit de Noël une bûche. Alors concrètement, c'était plus souvent une souche qu'une bûche, mais on va dire une bûche qu'on mettait dans la cheminée. On aménageait le foyer spécialement parce que la tradition voulait, le rituel, plus que la tradition d'ailleurs, voulait que cette bûche se consume tout doucement, le temps notamment, par exemple, de la messe de minuit. Et les cendres de cette bûche de Noël étaient parfois parées de beaucoup de vertus. Alors selon les régions, ça pouvait éviter la foudre. Enfin, c'était vraiment les cendres étaient vraiment avaient vraiment une valeur presque magique. Alors évidemment, quelques pâtissiers sont passés par là et ont trouvé cette idée de manger la bûche. Voilà, le feu dévore le bois. Nous, on va dévorer une bûche pâtissière, parce que c'est comme ça qu'il faudrait l'appeler, une bûche pâtissière. Et peut-être qu'on s'en rend pas compte, mais là, dans quelques semaines, lorsque auditrice, auditeur de Radion, vous dégusterez votre bûche pâtissière, ayez une petite pensée pour vos ancêtres paysans qui ont porté une très lourde bûche et qui l'ont placée dans le foyer en espérant, ça aurait été signe de malheur, sinon, qu'elle allait brûler, se consumer tout doucement pour la nuit de Noël.
Alain Robert, puisque nous parlons de Noël, parlons des enfants. Les enfants participaient largement aux activités agricoles. De même que, les femmes, on en a parlé aussi, mais les enfants étaient mobilisés dans les champs, parfois au détriment des cours.
Au détriment des cours, oui. Alors, pour leur grand plaisir, j'allais dire, comme l'inverse, oui, les enfants étaient aussi une main-d'œuvre, il faut dire les choses. Alors, évidemment, on ne pouvait pas leur donner un travail d'homme, on ne pouvait pas leur donner un travail physique. Mais beaucoup, beaucoup de paysans ont commencé en gardant le petit bétail. Ils étaient donc tout de suite au contact avec la nature. Et puis petit à petit, avec l'âge, que ce soit pour les garçons ou pour les filles, les parents, leurs parents, leur confient des missions de plus en plus importantes, leur transmet aussi des savoir-faire. Et effectivement, l'enfance n'est pas toujours, pas comme maintenant, n'est pas synonyme d'une longue période de scolarisation. L'enfance, jadis, c'était du travail. Pour les jeunes filles, par exemple, c'était aider leur mère de manière évidemment systématique pour les tâches domestiques. Et puis, il y avait quand même un temps pour les jeux. au bon temps des paysans en Bourgogne, le thème de l'enfance, mais je tiens vraiment à le mettre en valeur. Et effectivement, bon, c'est un peu la nostalgie un peu facile de ma part, je l'avoue, mais je pense que beaucoup de lecteurs vont se remémorer les jeux dans, on va dire, de plein air, mais les jeux dans la nature. Je parle de la chasse au dahu, par exemple, qui est vraiment un classique à la campagne. Et je pense qu'il y a beaucoup, beaucoup de souvenirs sincères, hein, et liés aux jeux de l'enfance, qui n'ont rien à voir, évidemment, avec les consoles de jeux vidéo d'aujourd'hui.
Il y a un instant, vous parliez des fillettes qui participaient aux activités domestiques en épaulant leur maman. Il y a une activité importante qui est aussi quelque chose de traditionnel. Je pense notamment à tous ces lavoirs qui sont nombreux dans Lyon, qui sont d'ailleurs entretenus avec beaucoup de goût et de soin. Les femmes font notamment ce qu'on appelle la bue, B-U-E. Est-ce que vous pouvez rappeler ou dire ce qu'est une bue ?
Alors, une bue, c'est une grande lessive, tout simplement. Alors, sans machine à laver, puisque, bien entendu, il faut faire disparaître beaucoup d'électroménagers de notre environnement pour imaginer les conditions de vie de nos grands-mères, arrière-arrière-grands-mères, la lessive, c'était vraiment un événement spécial. Alors, c'était un événement déjà lié au travail, un événement complètement féminin. Voilà, c'était vraiment la tâche des femmes. On se regroupait dans la communauté, on se regroupait entre voisines, on regroupait la tâche, hein, on allait travailler entre femmes. Les hommes n'avaient pas trop intérêt à mettre leur grain de sel dans l'histoire. Et la bue, c'est vraiment une ou deux fois dans l'année, c'est la grande lessive où on va effectivement, alors là encore, hein, c'est tout un moment de transmission de savoir-faire, où on va laver le linge avec principalement de la cendre, bien entendu du savon. Et puis nos lavoirs, alors les lavoirs, petit patrimoine dont vous parlez à fort juste titre, les lavoirs, s'ils ont été aussi conservés et mis en valeur, c'est qu'on sait très bien, notamment chez les paysans, que ces lavoirs étaient jadis très vivants. Il y avait beaucoup de femmes qui venaient donc au lavoir. On rince le linge. On va évidemment le battre avec le fameux battoir, le tapou aussi, on a ce terme qui est employé. On va battre le linge, on va l'essorer, on va le rincer dans l'eau de la rivière, dans l'eau du bassin. Et effectivement, il faut imaginer que ces lavoirs étaient de véritables lieux de vie, ce qu'ils ne sont plus malheureusement aujourd'hui. Mais des lieux de vie, des lieux de transmission de tradition, des lieux d'entraide. Et puis, évidemment, on le sait bien, c'était un lieu où se colportaient toutes sortes de nouvelles, vraies ou fausses.
Des on-dit, des rumeurs.
Voilà.
Le livre d'Alain Robert qui est ce soir devant notre micro, j'en rappelle le titre, hein, « Au bon temps des paysans en Bourgogne ». Et c'est aux éditions CPE, l'éditeur des terroirs. Alors, bien sûr, vous parlez des veillées, c'est passionnant. Il y a ce petit adage « À la Saint-Martin, bois ton vin et laisse l'eau pour ton moulin hein, ». Le temps des veillées commençait à la Saint-Martin, donc en novembre, après que l'on a tué le cochon.
Oui, en général. Disons que la saison hivernale annonçait la période des veillées. Voilà. Alors, concernant les veillées, je tiens à préciser, là encore, on a une image parfois un peu fausse. Il ne faut pas se méprendre. Les veillées étaient des temps de travail. Alors, là encore, un travail collectif. Pendant les veillées, on s'occupait de réparer les outils qui allaient servir au printemps prochain. On s'occupait aussi, on écalait les noix.
Tout en écoutant le récit d'un conte.
Tout en écoutant les anciens, effectivement. Orale. Alors c'était vraiment, c'était une manière pour l'unité villageoise de prendre un temps pour se retrouver. Les veillées s'organisaient tantôt chez l'un, tantôt chez l'autre. Chacun emmenait évidemment un petit quelque chose. Et vous avez raison de le rappeler, les anciens pouvaient transmettre le patrimoine oral, pouvaient transmettre les histoires du village, les anecdotes que parfois ils avaient racontées de toute façon mille fois dans l'année. Mais l'éveillé, c'est là où se racontaient des histoires, les contes traditionnels populaires, où se faisaient aussi, se nouaient les amourettes. C'est là où garçons et filles, les jeunes garçons, les jeunes filles, pouvaient commencer à se côtoyer. Vous savez, dans l'obscurité, parfois, ils pouvaient se passer des choses, se préparer des choses.
Il est vraiment un passeur de mémoire. Alain Robert, on marque la dernière pause de cette émission parce que le temps passe très vite. On se retrouve d'ici quelques minutes. On écoute Prendre Racine et c'est Calogero sur Radion.
C'est pas très loin de la ville. C'est pas plus grand qu'un cœur tranquille. C'est nos racines. Elles sont toujours restées loin. Là où on peut voir la mer sans fin. Et là. Cacher aux autres ses failles, avoir l'envie que quelqu'un d'autre s'en aille, avoir peur de revenir, avoir droit de devenir. On peut toucher les cimes,
Retour à bord de Wagon Livre pour la dernière partie de cette émission consacrée au bon temps des paysans en Bourgogne, l'ouvrage d'Alain Robert disponible aux éditions CPE. Un petit mot, Alain Robert, sur la gastronomie, sur cette gastronomie des simples, puisque c'est le titre du chapitre. Alors, évidemment, on mange peu de viande, on mange un peu léger, mais des choses saines tout de même, pour prendre des forces.
Oui, donc on travaille beaucoup. Et il faut imaginer que le travail à la campagne, le métier de paysan, ça creuse. Et effectivement, on a beaucoup, dans ce que j'ai appelé la gastronomie des simples, on a des mats fins. Alors, oui, on mange peu de viande. Cependant, comme vous l'avez dit tout à l'heure, on tue le cochon, il y a quand même du lard. Bon, la viande n'est pas le plat de tous les jours. On a beaucoup de légumes et beaucoup de céréales et bien entendu le pain. Voilà. La gastronomie des simples, pourquoi ce titre, hein, j'y reviens. J'ai voulu là encore un autre contre-pied dans mon livre. Je commence comme ça dans ce chapitre en disant évidemment on parle beaucoup de la cuisine bourguignonne. De toute façon, dès qu'il y a une sauce au vin, tout de suite c'est de Bourgogne. Voilà. Dès qu'on met de la moutarde quelque part, pour le lapin par exemple, lapin à la moutarde, allez hop, recette bourguignonne. Bon, il y a vraiment une gastronomie des simples et qui est vraiment marquée, qui est vraiment typique de la Bourgogne. Alors, elle n'est pas du tout faite avec forcément de la sauce au vin. Tout ça, ce sont des choses qui ont été, enfin toutes ces recettes ont été élaborées par des restaurateurs. Et moi, j'ai voulu, par le biais de la gastronomie des simples, revenir vraiment aux recettes paysannes, vraiment, enfin ce que je considère moi comme les véritables recettes du terroir. Alors, chaque département de la Bourgogne actuelle a sa petite spécialité.
Et la potée, la pochouse, par
voilà,
exemple.
Les corgnottes, ça c'est plutôt dans le sud
les
de la Bourgogne.
Les crapiaux dans
les
le Morvan.
Les crapiaux du Morvan, alors là c'est pareil, lors des salons du livre, beaucoup de lectrices, évidemment, pour la préparation, me demandent est-ce que c'est la recette des crapiaux de... Parce qu'il y a 1000 recettes pour préparer les crapiaux. Alors, on connaît sans doute aussi les beurs... Enfin, les beurs saudes, etc., etc.
La gougère, qui est revendiquée par la ville de Tonnerre,
oui.
À juste titre, semble-t-il.
Semble-t-il, dans mes recherches, dans mes lectures, ça semble confirmé.
Et alors, les escargots. Alors, comment consommait-on les escargots, par exemple, au XIXe siècle, ou même avant la guerre de 14?
Alors, les escargots de Bourgogne, là encore...
Oui.
Qui étaient des escargots qu'on trouvait dans les vignes, étaient au départ, il y a un passage que j'ai repris d'un historien du XVIIIe siècle qui explique dans ses souvenirs personnels que c'est ces escargots qui manquent cruellement maintenant. On en trouvait partout, c'était même des parasites de la vigne, parce que les meilleurs sont ceux qui sont dans les vignes. Voilà.
On payait les enfants pour
voilà,
ramasser ces escargots.
Voilà, tout à fait.
Hein.
Il y avait un peu comme le hantonnage. Voilà, ouais. Comme le hantonnage, il y avait de grandes chasses. On réunissait du monde et on débarrassait les vignes de ces escargots. Alors parfois on les mangeait, mais c'était à la bonne franquette. Il n'y avait pas du tout cette sauce au beurre avec des fines herbes comme maintenant nous avons dans nos assiettes. Là encore, pour les futurs repas de fin d'année.
Alors on les cuisine comment ?
On les cuisinait, ils étaient retirés de leur coquille, ils étaient cuisinés comme ça parfois, même le feu, quand ça, dans la braise, tout simplement. Ce sont des restaurateurs, on connaît Bio Escargot par exemple dans Lyon, mais ce sont des restaurateurs qui vont élaborer une recette pour accommoder l'escargot et donner sa renommée à ce plat.
Écoutez Alain Robert, on a essayé de faire un tour qui n'est pas forcément complet de votre ouvrage. Je vous remercie d'avoir été notre invité. On rappellera aux auditrices et auditeurs de Radion à la belle saison de prendre contact avec le musée rural des arts populaires de la Dieu, à venir découvrir ce musée que j'ai découvert grâce à vous et je vous en remercie. Et justement, l'émission littéraire peut aussi essayer d'être... un mode d'information des musées, faites vivre les musées si proches de vous et qui effectivement regorgent des trésors et qui eux aussi témoignent de ce bon temps des paysans ici à la Duse. On le voit, on le remarque.
Alors, à la DU, qui a un site internet, donc je pense que vous mettrez le lien par la suite dans l'émission, qui est en train d'être retoiletté actuellement. Mais effectivement, au musée de la DU, on vient retrouver une partie, et je l'espère sans passéisme mal placé, une partie du bon temps des paysans.
Au bon temps des paysans, en Bourgogne, d'Alain Robert, qui était notre invité, donc un bel ouvrage à feuilleter, à se procurer, à offrir aussi pour les fêtes de fin d'année. Un livre qui fait la part belle donc aux illustrations. Il y a des reproductions de cartes postales, il y a des chansons, des contes, des légendes, beaucoup d'informations sur la manière dont vivaient nos ancêtres, les paysans, des publicités, de très belles photos de Chablis, de Tonnerre, de la Fosse d'Yonne. C'est donc dans l'ouvrage d'Alain Robert. Alain Robert, merci à vous d'avoir été devant
le micro
de
Vagabond. C'est moi qui vous remercie.
Et bonne soirée à vous.
Bonsoir.
Avant de nous séparer, quelques informations culturelles et littéraires. Tout d'abord, ce vendredi 30 novembre à 17h, c'est à Vézelay, à la Maison Jules Roy. La Maison Jules Roy, l'association Romain Roland, l'association des Amis de Vézelay vous invite à la soirée de lancement du journal inédit de Romain Roland, couvrant la période 1938-1944, une édition établie par Jean Lacoste. Jean Lacoste sera donc présent. Jean Lacoste, philosophe et germaniste, spécialiste de l'œuvre de Romain Roland, prix Nobel de littérature en 1915, et il sera interrogé par Henri Mitran. Henri Mitran, professeur de littérature, spécialiste reconnu de l'œuvre d'Émile Zola, mais Henri Mitran, natif des environs d'Avalon, qui a été professeur émérite à la Sorbonne Nouvelle et également à l'Université Columbia de New York. Il est aussi le président de la Société littéraire des Amis d'Émile Zola. Bref, grand rendez-vous vendredi 30 novembre à 17h à la Maison Jules Roy pour la présentation en avant-première du journal inédit de Romain Roland. Édition établie par Jean Lacoste, nous y serons pour un petit reportage qu'on vous proposera mercredi prochain. Pour ma part, je vous donne rendez-vous mercredi prochain, 5 décembre à 21h, pour un entretien avec Jean-Marie Roire de l'Académie française. Nous reviendrons avec lui sur les facettes mal connues de Napoléon, celui qui se croit d'abord un destin en Corse, l'amoureux fou de Joséphine, le suicidaire aussi, celui qui croit au signe du destin, un autre Napoléon qui n'apparaît pas forcément sur les tableaux de David. Nous mettrons ainsi en lumière le dernier ouvrage de l'académicien paru chez Gallimard et qui a pour titre « Napoléon ou la destinée ». Rendez-vous donc la semaine prochaine avec Jean-Marie Roire. Le chef de gare que je suis vous souhaite une excellente fin de soirée et une douce nuit. Merci d'être monté à bord de Wagon Livre. Au revoir.